Renaud de Bourperre, une réaction, un commentaire, accord, désaccord.
Alors, bon, il y a beaucoup de choses hein, dans ce qui vient d'être dit. La cigarette électronique, peut-être qu'il faut en parler. Alors, c'est quelque chose qui, par un certain un aspect, ressemble un petit peu à l'histoire du baclofène. C'est-à-dire que le tabac, c'est pire que l'alcool.
Mais les deux, c'est bon. Enfin, pardon.
Excusez-moi. Oui, alors, bon, c'est un autre aspect. Non, mais, alors, très bien. Moi, je veux bien revenir aussi sur cet aspect-là.
Ah, avec modération, bien sûr.
Voilà.
C'est-à-dire, pourquoi baclofène et cigarette électronique sont équivalents, à votre avis?
Alors, il y a deux choses. D'abord, puisqu'on a parlé du plaisir de boire et du plaisir de fumer, moi, absolument. Je crois qu'il faut différencier la fête, le plaisir, de la dépendance. C'est-à-dire, d'un côté, on a la nature humaine hédoniste qui aime prendre du plaisir et c'est absolument normal. Enfin, je veux dire, il faut plutôt encourager ça, finalement. Et puis, d'un autre côté, il y a cette chose qui s'appelle la dépendance, qui est un esclavage et qui est quelque chose d'épouvantable.
Attendez, pardon, et puis on pourrait dire qu'il y a une troisième chose, quand même, qui domine tout, hein, ou pas, la santé.
Oui, alors, bien sûr, la santé. On parlait des jeunes tout à l'heure. Les jeunes détruisent leurs neurones avec l'alcool, deviennent dépendants au tabac et au cannabis. C'est aux adultes, effectivement, de leur expliquer que c'est mauvais pour la santé. Simplement, ils n'écoutent pas. Ça fait partie du fonctionnement des adolescents de s'opposer. Et ils doivent avoir le message et pouvoir l'utiliser quand ils seront un peu plus adultes et qu'ils comprendront que toutes ces substances sont nocives. Mais c'est des problèmes différents, si vous voulez. La question de l'utilisation d'alcool et de substances toxiques à l'adolescence est un véritable problème. Mais le principal problème, c'est vont-ils devenir dépendants sur le long terme ou vont-ils, comme c'est la plupart des cas, arrêter quand ils comprendront que, bon, ça y est, on a pris du plaisir, on a su ce que c'était l'expérience du plaisir, maintenant on va passer à autre chose.
Parce que de toute façon, le « c'est bon pour la santé » n'a jamais empêché personne ni de boire ni de fumer.
Absolument, absolument.
Alors, pour revenir sur la question du baclofène, tout de même, Renaud de Bourperre, et que pour que je me fasse tout de même aussi un peu l'avocat du diable, entre guillemets, parce qu'après tout, moi je ne suis pas scientifique, je ne peux pas vérifier si ce que vous dites est frappé au coin du bon sens ou pas, est vrai ou pas, tout de même. Est-ce que quand même, avec l'utilisation du baclofène, on est dans un cas de figure qui, pour l'instant, dites-vous, est une affaire médiateur à l'envers, mais qui, dans quelques années, pourrait devenir une nouvelle affaire du médiateur. Et imaginons que, regardez, le médiateur était, au fond, servé pour beaucoup de gens de coupe-faim. Bon, on se découvre, des années après, les dégâts que fait le médiateur sur la santé, alors qu'il était utilisé, a priori, pour un usage, on va dire, à peu près inoffensif, et pour le bien-être des... Imaginons que dans 20 ans, et y a-t-il ce risque-là ou pas? Je vous pose la question tout de go. Le baclofène subisse la même histoire et qu'on se découvre qu'il a des effets nocifs terribles par ailleurs qu'on ne saurait pas aujourd'hui parce que voilà utilisé à contre-emploi, un contre-emploi qui marche certes, mais qui pourrait se révéler très nocif ou pas.
Oui, je comprends que c'est la question que vous posez. En fait, c'est celle que se posent énormément de personnes. Il faut faire passer le message qui est que le baclofène n'est pas toxique. On en a la preuve, hein, qui est que le baclofène est utilisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 40 ans, que des dizaines de millions de personnes dans le monde ont eu des baclofènes pendant des dizaines d'années, et que jamais un effet toxique n'a été observé. Alors, le baclofène a des effets indésirables, mais ces effets indésirables sont bénins, c'est-à-dire que le baclofène met dans le potage, on peut dire, rend les gens...
Alors, sédation, somnolence, faiblesse et ou douleur musculaire, nausée, sécheresse de la bouche parfois, baisse de tension artérielle, confusion mentale, spasmopholie, problèmes respiratoires, diarrhée, maux de tête, rarement, sentiment de bien-être ou au contraire état dépressif, manque d'équilibre, tremblement, trouble de la vue, hallucinations et cauchemars. C'est ce que note entre autres la revue Prescrire, dont on connaît le sérieux, qui pour l'instant n'a pas l'air d'enjoindre le pas de votre enthousiasme, si je puis employer une sorte de catacrèse.
Catacrèse. Vous avez dit spasmopholie aussi, j'ai trouvé ça très bien. Donc... Alors, la revue Prescrire est une revue extrêmement sérieuse et extrêmement prudente.
qui jusqu'à présent, en tout cas, a montré qu'elle se trompait rarement dans son expertise.
Alors, il y a tromper n'est pas se tromper n'est pas quelque chose de simple. On peut se tromper, on peut ne pas se tromper de façon littérale, mais se tromper dans les projections sur l'avenir. L'article de prescrire est très prudent. C'est-à-dire demande aux prescripteurs, indique que les prescripteurs doivent être prudents dans la prescription de baclofène, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, à mon avis, compris que le baclofène sauvait des vies. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ambiguïté dans cette histoire de baclofène qui est que quand on en reste de façon littérale aux faits, effectivement, il faut être prudent dans la prescription de baclofène. Mais quand on a une vision un peu plus élevée, c'est-à-dire que une vision que moi j'appelle éthique, c'est-à-dire que ce qui prime, ce n'est pas le médicament, mais son effet, c'est-à-dire la santé des malades, quand on se place de ce point de vue-là, il faut devenir, je dirais presque, militant pour le baclofène, ce qui n'est pas, et c'est naturel, l'attitude de prescrire.
D'autant que vous rappelez qu'un médecin est autorisé à prescrire un médicament qui n'aurait pas reçu l'autorisation de mise sur le marché, dans la mesure où il sait que ce médicament peut soigner son patient. C'est-à-dire qu'il n'est pas répréhensible de quoi que ce soit par la loi, puisqu'il est censé, par le serment d'Hippocrate, au fond, prescrire quelque chose qui va soigner quelqu'un, même s'il n'y a pas d'autorisation. C'est bien cela que vous rappelez. Voilà. Pour déculpabiliser les médecins qui se sont mis à prescrire, comme vous, le baclofène.
Ça s'appelle les prescriptions hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché. Chaque fois qu'un médicament arrive sur le marché, il a des indications. Un antibiotique, c'est pour soigner une infection. Donc, et puis si un jour on s'aperçoit qu'un antibiotique marche pour le traitement de l'alcoolisme, effectivement, ça pose un problème. Hein, les médecins veulent soigner leurs malades. S'ils sont persuadés qu'ils vont soigner mieux leurs malades avec un antibiotique, ils vont le prescrire. Ils ont le droit. Mais c'est inscrit, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout illégal de prescrire hors AMM. Les AMM sont finalement assez restreintes, et de plus en plus, quand on utilise un médicament pendant des longues périodes de temps et pendant plusieurs années, on s'aperçoit qu'ils ont souvent d'autres effets que ceux qui sont prévus dans l'AMM. Et se pose un problème au médecin. Est-ce que je peux prescrire ce médicament parce que je pense qu'il va faire du bien au malade? Mais, personnellement, c'est le médecin qui parle, je prends un risque. C'est-à-dire que s'il arrive un effet indésirable très gênant, on peut se retourner contre le médecin. Donc un médecin qui prescrit hors AMM prend un risque, mais il faut savoir que ce risque, les médecins le prennent tout le temps.
Alors, je propose qu'on écoute un témoignage sur le baclofène, celui d'une ancienne alcoolique dans l'Isère, qui s'en est sortie grâce au baclofène, une ancienne infirmière de 57 ans, mère de deux enfants, qui ne peut plus travailler à cause de la dépendance à l'alcoolisme. Elle buvait 3 litres de vin blanc par jour, mais il y a 3 ans, sa vie a changé avec le baclofène. Elle est au micro de Christophe Payet.
Moi, je peux vous dire que j'ai fait une dizaine de cures de désintoxication. Avec un échec total, avec une reprise, etc., etc. Il n'y a rien qui n'a marché, rien. Mon mari m'a beaucoup aidé, et un jour on a trouvé donc sur internet baclofène, et baclofène m'a aidé. Je suivais une psychothérapie qui ne servait à rien puisque j'étais tout le temps alcoolisée quand j'allais à ma psychothérapie, donc j'arrivais pas à avancer non plus. Et donc, à partir du moment où j'ai eu le baclofène, et ben, j'ai pu. Je suis à 3 ans de psychothérapie et là, ça va vraiment. Je revis quoi, c'est incroyable quoi. Ça fait 3 ans que je vis bien et si j'avais pas trouvé le baclofène, je serais mort.
Voilà donc ce témoignage d'une ancienne alcoolique dans l'Isère et qui continue au micro de Christophe Payet, notamment pour dire que tout de même, il n'y a pas de miracle nécessairement.
Au niveau des dosages, c'est baclofène, hein, c'est pas évident de trouver sa dose. Et puis là, je suis en train de descendre, c'est pas non plus évident de descendre au niveau de sa dose. Finalement, au bout de 2 ans et demi, à presque 50 mg alors que j'étais à 250 mg, voilà. Mais c'est pas un truc chimique miracle, faut faire un travail à côté. Ça, c'est mon expérience. Bon, il y a l'effet chimique, mais il faut aussi continuer absolument une psychothérapie à côté, quoi. Parce que on ne devient pas alcoolique comme ça, hein. Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur soi. C'est-à-dire que des gens qui se disent « Ah, oh, ben, je ne veux plus boire d'alcool, je prends des baclofène », ça ne peut pas marcher.
Docteur Renaud de Beaurepaire.
Écoutez, tous les malades sont différents. Il n'y a pas deux
patients
identiques.
Oui, alors on va dire un cas, un témoignage, ce n'est pas la partie pour le tout, bien
alors,
sûr.
Alors, il y a effectivement des personnes qui ont besoin d'être accompagnées par des psychothérapies. C'est-à-dire qui prennent du baclofène, qui réduisent ou qui arrêtent leur consommation d'alcool, mais qui ont des structures de personnalité, des organisations de la personne telles que l'arrêt de l'alcool grâce au baclofène ne suffit pas. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est une très bonne chose de suivre une psychothérapie et d'essayer d'y voir clair en soi-même, puisque c'est un peu le but des psychothérapies. Simplement, d'après mon expérience, ces cas sont minoritaires. Dans l'immense majorité des cas, les personnes sont dépendantes à l'alcool, c'est-à-dire souffrent de leur alcoolisme, et le fait d'arrêter de boire a en soi un effet, on pourrait dire psychothérapique, hein, c'est-à-dire que l'utilisation de baclofène qui conduit à l'arrêt de l'intoxication soulage tellement ces personnes.
Et on va redire ce que vous disiez, pardon, qui conduit à l'indifférence, ce qui est un terme extraordinaire.
Qui rend ces personnes indifférentes à l'alcool, c'est quelque chose de surprenant, quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Le contraire de l'indifférence, c'est, je sais pas, on pourrait dire la dépendance ou le concernement, hein, vis-à-vis de l'alcool, était un enfer pour ces personnes, et le simple fait de ne plus être concerné par l'alcool, de devenir indifférent vis-à-vis de l'alcool, est suffisant pour transformer ces personnes qui n'ont pas besoin de psychothérapie. Donc, il y a beaucoup de cas, il y a des personnes qui ont besoin de psychothérapie et d'autres qui n'en ont pas besoin. C'est aussi simple que ça, je crois.
Alors, des questions, Caroline Iliachef, vous êtes très concernée par cette affaire depuis longtemps, vous nous en parlez également aussi hein, au bureau.
Oui, je voudrais quand même apporter une toute petite précision sur l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Le baclofène est autorisé. Quand vous dites on peut prescrire hors autorisation, oui, en augmentant les doses, mais il faut quand même bien préciser, parce que vous dites le baclofène hors AMM, non, le baclofène est autorisé dans une certaine une certaine indication.
Voilà, dans une posologie, voilà. Mais qui n'est pas celle de dire ce qu'on va saluer.
Voilà.
Ça,
on ne peut pas
ça...
dire le baclofène oui. N'est pas voilà. Autorisé. Il y a
mais
quand même une
comme
certaine...
Comme le médiator était autorisé, mais pas pour être forcément
exactement.
Un coupe-vin.
Exactement. Alors, ce qui est très, très intéressant dans votre livre, enfin, il y a évidemment beaucoup de choses, mais la façon dont vous parlez des patients est tout à fait passionnante. C'est-à-dire que quand vous dites qu'il n'y a pas deux personnes pareilles, c'est vrai. C'est-à-dire un alcoolique ne ressemble pas à un autre alcoolique. Il y a une variété absolument incroyable de patients. Et peut-être que vous n'en aviez jamais vu autant.
D'alcoolique, je n'en avais jamais vu autant, effectivement. Ça m'a fait une sorte d'immense clientèle... Les consultations sont gratuites hein, au CMP de Vitry-sur-Seine et non-alcoologue, je suis devenu par la force des choses un peu alcoologue, je dirais pas que je suis devenu vraiment alcoologue, mais l'alcoologie, quelque chose que je connaissais pas très bien, j'ai compris que c'était quelque chose d'absolument passionnant, pas seulement l'alcoolologie, mais la dépendance en général, les addictions, et il n'y a pas deux addicts identique. Chacun a son histoire, chacun a ses raisons pour lesquelles il est devenu dépendant à telle ou telle substance, et l'abord thérapeutique est donc différent pour chaque personne. Et il faut, chaque fois qu'on voit un patient, essayer de comprendre ce qui a déterminé sa dépendance, ce qui va impliquer, ce qui va avoir des conséquences sur la prise en charge. Ceux qui sont devenus dépendants pour des raisons de conflits psychologiques très complexes, effectivement, auront besoin de psychothérapie, mais ceux qui sont devenus dépendants, on pourrait dire, d'une certaine façon, malgré eux, qui ont été entraînés à boire pour des raisons culturelles diverses, etc., et qui ensuite sont devenus des esclaves d'une substance et qui en souffrent énormément, auront probablement besoin d'une approche thérapeutique un peu différente.
Maurice Couturier.
Oui, pour reprendre cette discussion sur les drogues, pour élargir un petit peu de l'alcool à d'autres types de substances, il y a des drogues qui sont ludiques, comme on dit, récréatives, qui sont donc censées nous apporter du plaisir et qui surtout correspondent à des pratiques sociales. Pensez aux agapes républicaines qui se terminent quand même par des joyeuses beuveries et
auxquelles
on chante. Hein, j'ai connu ça au Sénat, par exemple. C'est une pratique sociale. Il y a des banquiers républicains. Mais ce qui est nouveau, et c'est ce que nous montre, par exemple, la double page dans le supplément Sciences et médecine du monde d'hier, c'est qu'il y a un aspect d'autodestruction chez les jeunes aujourd'hui. Il y a une façon de tester les limites, et de jouer avec la mort, de jouer avec le suicide. Alain Ehrenberg avait très bien mis ça en évidence dans ses bouquins sur la drogue et la pratique sociale de la drogue et les évolutions de cette pratique sociale. Effectivement, on est passé d'une pratique ludique et récréative à une autre qui est du type d'autodestruction. Là, regardez la façon dont ces jeunes s'expriment à propos du binge drinking. J'ai assisté à ce type de beuverie à Oxford d'ailleurs dans les années 90 et j'avoue que c'est un spectacle absolument désolant. Ils parlent de se déchirer, ils disent on est cramé. Et si je considère qu'effectivement l'État n'a pas à modérer nos plaisirs parce qu'il ne le concerne pas, par contre il rentre bien dans les responsabilités de l'État d'empêcher des adolescents de s'autodétruire. Et puis surtout il revient à l'État de faire en sorte qu'il n'en ait pas le désir de s'autodétruire. Effectivement si les perspectives d'avenir étaient moins sombres en Europe en général et dans ce pays en particulier, peut-être que les jeunes auraient moins envie de se déchirer, comme ils disent.
Docteur Renaud de Beaupère.
Alors, bien sûr, mais c'est évident que l'utilisation de substances, en particulier d'alcool, a une dimension suicidaire. Simplement, on rentre là dans une... dans quelque chose qui est extrêmement complexe. La dépression a des formes très très multiples. C'est très difficile d'attendre de l'État, de notre administration, une espèce de prévention de la dépression. En fait, la dépression, c'est quelque chose qui vous tombe dessus parce que l'environnement, les personnes sentent qu'ils vont avoir beaucoup de mal à se développer, à exister dans l'environnement qui est leur, et prend le dessus de ce qu'on appelait Thanatos, c'est-à-dire l'envie, le besoin inconscient de se détruire, de mourir, et c'est un problème extrêmement complexe, c'est très difficile de demander aux autorités sanitaires ou à l'administration ou à l'État de venir prévenir ça. En fait, c'est le monde en général dont il faut faire le procès. C'est pas des personnes individuellement.
Moi, il y a un chiffre dans votre livre qui m'a beaucoup impressionné, et parce que tout de même, on voit bien que la question, quoi que baclofène ou pas baclofène, est très épineuse sur la question de l'alcoolisme. C'est que donc 80% des alcooliques n'éprouvent pas le désir de sortir de l'alcoolisme et de leur intoxication, de leur addiction. Mmh. 80%, le chiffre, c'est plus là.
C'est très très intéressant. C'est d'autant plus intéressant d'ailleurs que les 20% qui demandent à se soigner ne sont pas toujours ceux qui ont le plus envie de se soigner. En fait, ceux qui demandent des soins, c'est souvent...
On frôle le 100% là.
Non, pas du tout. Mais pas du tout. Non. Mais pas du tout. Je dirais même au contraire.
Ah bon, j'ai pas compris.
Alors, je vais vous expliquer. Il y a 80% effectivement de personnes alcooliques ou du moins dépendantes à l'alcool ou qui sont des consommateurs excessifs d'alcool qui ne cherchent pas à se soigner. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent pas à se soigner? En général, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de traitement. Et qui vont rentrer dans une espèce de cycle compliqué.
Les alcooliques anonymes, tout ça, ça ne marche pas. Ils considèrent que ça ne marche pas pour eux.
Mais ils savent très bien que ça ne marche pas pour eux. Et de plus en plus, je vois des patients qui viennent me voir en me disant « Je viens vous voir parce que le baclofène, je sais que ça existe. Je bois depuis 10, 20, 30 ans. Je n'ai jamais cherché à me soigner parce que je savais que les traitements habituels sont totalement inefficaces et que je n'allais pas me lancer dans des choses qui seraient nécessairement des déceptions pour moi. Maintenant, j'ai entendu parler du baclofène. J'ai compris que ce médicament rend indifférent à l'alcool. Alors, aujourd'hui, je viens vous voir parce que je veux vraiment me soigner.
Je veux vraiment me soigner.
Et là, je sais que je vais pouvoir guérir. Et effectivement, ces gens-là, finalement, guérissent plutôt mieux que les autres 20% qui sont toujours dans une situation de, dans une relation un petit peu ambivalente vis-à-vis de l'alcool, où l'alcool leur est utile dans d'une certaine façon, où souvent ils boivent pour traiter des dépressions qui sont beaucoup plus peut-être graves que leur alcoolisme lui-même, etc. Les gens qui cherchent à se soigner ne sont souvent pas seulement alcooliques, mais ont souvent des problématiques beaucoup plus complexes qui font que c'est plus difficile de les soigner.
Et docteur de Bourpère, est-ce qu'on peut, alors là aussi, est-ce qu'on peut parler tout de même de soins quand on emploie le terme de baclofène? Est-ce qu'on n'est pas, parce que on comprend quand on lit votre livre que quand on arrête le baclofène, on peut retomber dans, enfin l'indifférence disparaît, on peut retomber dans l'alcoolisme. Alors est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une sorte de drogue de substitution que dans un médicament avec le baclofène? Est-ce que c'est pas une question qui se pose?
Alors c'est une question qu'on peut se poser en tout cas. Hein. Si on est dans le cadre de la substitution, c'est pas quelque chose de grave. Hein, la substitution, ça existe pour les autres de drogues, ça existe pour les opiacés, etc. Voilà. On a d'excellents traitements des dépendances aux opiacés avec la substitution et beaucoup de succès. Et il faut savoir que des médicaments comme le Subutex, le buprenorphine, etc. ont transformé le pronostic des dépendances aux drogues classiques, on pourrait dire. Donc, si le baclofène était un traitement de substitution de l'alcoolisme, ce serait pas une chose mauvaise en soi. Alors, mais c'est probablement pas le cas. Ou alors sur un plan biochimique très compliqué, peut-être que le baclofène vient prendre la place de l'alcool sur certains récepteurs dans le cerveau, etc. Mais on rentre dans des considérations très très complexes qui n'ont pas lieu d'être peut-être en clinique courante. Le baclofène permet de devenir indifférent à l'alcool. Il faut prendre du baclofène pendant une assez longue période de temps.
Oui, alors dis donc, c'est pas marrant quand même, hein, parce que 70 pilules, comment il faut les prendre?
Alors, c'est exceptionnel, les personnes qui prennent 70 pilules.
Il y en a 20 minimum.
Oui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on augmente progressivement les doses de baclofène jusqu'à ce que les personnes deviennent indifférentes vis-à-vis de l'alcool. Une fois que cette indifférence est obtenue, avec en moyenne environ 14 ou 15 comprimés par jour, séparés généralement en trois fois, c'est-à-dire 4 matins, 4 midi, 5 le soir, etc. Donc c'est pas non plus extraordinairement contraignant. Les patients prennent ce traitement pendant plusieurs mois, une fois qu'ils ont atteint leur indifférence à l'alcool, et ensuite, on leur propose, et ils sont d'accord, de diminuer progressivement les doses. Et soit l'envie de boire revient, ce qui est très fréquent, à des doses inférieures, soit l'envie de boire ne revient pas, et c'est moins fréquent. Quand l'envie de boire revient, on réaugmente un petit peu les doses, mais ce sont des doses bien inférieures à celles utilisées précédemment. C'est-à-dire qu'on peut, je finis ma phrase, on peut avoir des doses d'entretien d'une indifférence vis-à-vis de l'alcool à des doses assez faibles de baclofène, de l'ordre de 8 ou 10 comprimés par jour, ou 6 ou 7, ce qui est quand même très très facile. C'est pas très très compliqué de prendre 2 comprimés le matin, 2 midi, 3 le soir. Les doses d'entretien du baclofène, en règle générale, sont des doses relativement faibles, dont les patients ont besoin, mais qui ne présentent pas de grosses contraintes.
Oui, et pardonnez la débuter de ma question, est-ce que du coup ce traitement permet aux alcooliques de boire de l'alcool raisonnablement, ou il ne faut pas qu'ils en boivent du tout, comme on le conseille aux alcooliques qui ont réussi à s'en sortir? Est-ce que le rapport à l'alcool redevient, on va dire, normal, j'aime pas beaucoup ce mot, mais modéré, dans le sens que voilà, on peut boire un coup, quoi. Voilà.
Ouais, bon, vous pouvez utiliser le terme normal.
Je sais pas ce que ça veut dire.
Parce que oui, on sait un petit peu ce que ça veut dire quand même. Oui. C'est-à-dire comme tout le monde.
Oui, voilà.
Comme tous les non-alcooliques.
Qui t'a risqué un enivrement du samedi soir? Est-ce que c'est possible ou pas, ça, avec le baclofène?
C'est parfaitement possible.
Ah oui, d'accord. Donc, un alcoolique peut boire.
Oui, mais simplement...
Tous les avantages à la fois.
Mais simplement, ouais. Si, mais il y a un désavantage, c'est qu'ils finissent pas leur verre, finalement. Ils ont plus le plaisir qu'à une personne, peut-être, que je dirais comme vous et moi, de boire de façon éventuellement excessive, mais juste parce que les circonstances font que c'est l'occasion de
fêter
quelque chose, etc. Alors,
Oui. Brice Couturier.
Je voudrais revenir sur le rôle de l'État. Parce qu'il y a un des paradoxes de l'État hygiéniste, parce que nous avons un État hygiéniste qui cherche à nous contraindre, ou en tous les cas à nous encourager à ne pas mettre en danger notre santé. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait l'État en général? Soit il interdit carrément la vente de la substance qui provoque évidemment un marché noir terrible, soit il ajoute les taxes aux taxes et progressivement, ces produits comme l'alcool et le tabac sont tellement taxés que l'État lui-même a intérêt à ce que la consommation continue, bien entendu, puisque c'est une des sources de revenus. Et alors on se demande toujours quelle est exactement la politique d'un État qui, d'un côté, entend encourager la santé publique en taxant à mort les produits dont il cherche à nous débarrasser, et d'un autre côté, dépend pour l'équilibre de son budget, on sait à quel point il est compromis, de la vente de ces produits qu'il cherche à interdire. Et où se situe, à l'intérieur même de nos administrations, comment ça se passe, l'équilibre entre Bercy qui souhaiterait sans doute qu'on consomme davantage de tabac et d'alcool. Et le ministre de l'Affaires de la Santé qui... comment ça se passe? Est-ce que vous avez assisté à des confrontations entre ces diverses administrations et comment sont-elles réglées?
Alors, j'ai pas assisté à des confrontations, mais ce que vous dites est tellement vrai que qu'il faut en parler, que c'est sous-jacent à toutes ces histoires de baclofen. C'est pas moi qui ai inventé la formule, mais longtemps on a dit que l'État était dépendant au tabac. C'était une dépendance. Effectivement, ce sont des sources de revenus absolument considérables. Et on parlait tout à l'heure de la cigarette électronique. Bien sûr que l'État veut interdire la cigarette électronique, pas du tout parce que la cigarette électronique est dangereuse, mais tout simplement parce que perdre le marché du tabac, c'est quand même épouvantable. C'est ça. S'il y a des gens qui ont encore des doutes, je rappelle que le tabac est la première cause de mortalité dans le monde, que c'est pas 130 personnes par jour comme l'alcool, mais 200, que c'est quelque chose d'absolument épouvantable, et que la cigarette électronique n'a aucune toxicité. Je crois qu'il faut le dire. On nous répand des discours de grands universitaires qui viennent nous expliquer « Oh là là, on ne sait jamais, peut-être que la cigarette électronique, ça va être toxique pour votre santé, faites attention. » Ou on entend aussi « Oh là là, la cigarette électronique, ça va vous rendre dépendant. »
À l'électronique.
Mais vous allez être encore plus dépendant après qu'avant. C'est invraisemblable. Mais c'est pas seulement en France. La Food and Drug Administration américaine tient exactement le même discours. En fait, c'est évident que les intérêts financiers liés au tabac sont derrière ça. C'est certain. À tout le monde, à tous les fumeurs, à toutes les personnes intoxiquées par le tabac, je dis, fumez, utilisez des cigarettes électroniques. C'est le meilleur traitement de la dépendance au tabac. Et n'écoutez pas ces universitaires qui viennent vous expliquer que ça va être mauvais pour vous. N'écoutez surtout pas.
Et Vlan, nous dit aujourd'hui le docteur Renaud de Beaurepaire. Merci, docteur Renaud de Beaurepaire. Je rappelle que donc avec Claude Servan-Schreiber, c'est un livre d'entretien, vous publiez « Vérités et mensonges sur le baclofen, la guérison de l'alcoolisme chez Blain Michel ». Un dernier petit mot, tout de même, il y a un gros colloque le 3 juin à Paris, à Cochin, 27 rue du Faubourg Saint-Jacques dans le 14e arrondissement. Sur le baclofen, vous nous dites de quoi il retourne, parce que j'ai pas eu le temps de tout lire, à vrai dire.
Ben, il s'est trouvé qu'il existe en France des personnes qui sont des personnes sensées. Et ces personnes, on les a trouvées à l'Académie de médecine, qui est quand même une instance qui joue un certain prestige, voilà, et qui a une certaine autorité, et que ces personnes de l'Académie de médecine ont décidé de donner leur avis. C'est-à-dire,
pas les moindres, l'introduction du colloque, notamment, se fera par Didier Sicard.
Oui, voilà, Didier Sicard.
Pas considéré comme quelqu'un quand même de très négligent.
Effectivement. C'est une espèce de coup de poing sur la table. On en a marre de ces campagnes anti-baclofène. On a un médicament qui soigne, qui guérit les alcooliques. Arrêtons d'ergoter, de tergiverser. Il faut donner ce traitement aux alcooliques. On les soigne, on les guérit.
C'est un peu ce qu'avait fait, ouais. fait le professeur Tournesol avec le capitaine Haddock dans Tintin et les Picaros, dites-moi.
Oui, il faut demander à Sicard ce qu'il pense de cette comparaison. Je crois qu'il a beaucoup d'humour.
Ouais. Ouais. Oui, mais je crois qu'il a beaucoup d'humour. Le professeur, il n'y a pas de souci. Merci. Donc, je rappelle ce colloque, lui, le 3 juin, amphithéâtre Dieu la foi à Cochin, 24 rue du Faubourg Saint-Jacques, dans le 14e arrondissement de Paris. Et donc, votre livre, Vérité et mensonges sur le baclofène, c'est publié chez Albin.